Merci. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être là, Claude Legault.
Bienvenue.
Claude Legault s'est illustré, comme vous le savez, à la scène, à la télévision, au cinéma, comme auteur et comme comédien. À la télévision, on a pu le voir dans « Mes nuits du soir », une série qui lui a valu 3 Gémeaux, dont 2 en tant qu'auteur. Il est également co-auteur de la série télévisée « Dans une galaxie près de chez vous », ainsi que de 2 films du même nom. Récemment, tous ses talents ont été mis en lumière par la série 19-2, qui porte sur la vie tumultueuse, on va dire, de 2 policiers, Chartier et Béroff. Claude Legault a également fait sa marque dans le domaine de l'improvisation. En 1982, il a fondé le mouvement d'improvisation du Cégep Montmorency, la première équipe d'impro de niveau collégial à avoir vu le jour au Québec. Puis, de 1989 à 2003, il a été le joueur étoile de la Ligue nationale d'improvisation, représentant le Québec à la Coupe du monde d'improvisation à 3 reprises. Aujourd'hui, il partage avec nous son amour des livres. Premièrement, quelques questions pour camper vos habitudes et vos secrets de lecture. Est-ce que vos livres, ils sont impeccables? Est-ce qu'ils sont raturés, annotés, cornés? Est-ce que vous les lancez? Là, c'est difficile de mentir parce qu'ils sont là.
Oui, c'est ça. Ça dépend des livres, en fait. Les bandes dessinées... Mon père, des fois, prenait mes bandes dessinées puis il tournait les cartons comme ça pour les lire à l'envers. Fait que je ne pouvais pas rien dire parce que mon père était assez colérique. Mais ça se fait pas qu'une bande dessinée. Là, mais pour le reste des livres, j'ai pas de problème à les plier, plier les coins, écrire dedans et tout ça. J'avais entendu Michel Tremblay dire à un moment donné, un livre, faut que ça vive. Il faut pas que ça reste propre et tout ça. Moi, quand j'ai fini un livre, ça paraît. Il est de même. Là, je m'endors dessus aussi des fois, ou j'échappe quelque chose dedans en mangeant, ou je vais l'échapper à terre, sur la rue.
OK. Mais ils ont... Vous n'empruntez pas beaucoup ici, à la Grande Bibliothèque?
Non. Non, je suis barré.
OK. Est-ce que vous acceptez de les prêter, vos livres, ou c'est comme un peu fétichiste, ou est-ce que vous les revendez, est-ce que vous les donnez?
Les livres de fétichisme, j'y garde. Non, je les... Non, j'en donne, je les prête. À un moment donné, comme dans le suivi de ce que Tremblay disait, si moi j'ai fini avec, il faut que le livre se promène.
S'il ne revient pas, c'est pas grave.
C'est pas grave. C'est quelque chose que je ne suis pas capable de jeter. Je ne jetterai jamais un livre. Je vais le donner. Il faut que quelqu'un s'en serve parce que c'est trop un objet qui est intéressant. T'sais.
Est-ce que vous avez un moment privilégié pour lire?
Habituellement, c'est dépend du sujet. Non, c'est vrai, je lisais dernièrement l'industrie de la corruption. J'ai essayé de commencer à lire ça le soir. C'est une mauvaise idée, ça me met en tabarnak, je suis pas capable de dormir. Fait que je peux pas lire ça le soir, c'est impossible. Ou un livre trop bon, je peux pas le lire le soir non plus parce que je me couche plus. Fait que faut que je pogne de quoi entre les deux. Là, sinon, c'est aussitôt que j'ai un trou, si je voyage, mettons, pour aller sur un film, puis j'ai un transport, mais là, je vais peut-être lire un peu, ou le midi, quand j'ai un lousse, ou en campagne, j'ai un chalet à cette heure, là, je peux lire. C'est quand je peux.
Avez-vous des livres d'art, des beaux livres, des livres de table à café? Êtes-vous collectionneur?
Non. Non, parce que je les maganerais.
Il y a deux genres de lecteurs, ou peut-être plus, mais en tout cas, selon leur fidélité à certains auteurs, il y en a qui vont lire systématiquement un auteur. Chaque fois qu'un nouveau livre va paraître, ils vont l'acheter sans poser de questions. Ils sont très fidèles. Il y en a d'autres qui batifolent, qui vont d'un auteur à l'autre. Vous êtes quel genre de lecteur?
Assez infidèle. Ouais. Non, moi, j'aime rentrer dans une librairie, puis regarder ce qu'il y a, puis je me laisse tenter. Vraiment, je vais à cueillette. Je regarde ça, bon, ce que les gens ont... Des fois, je vais entendre ce qui va se dire à radio ou à télévision, ou quelqu'un me parle d'un livre, là, je vais aller l'acheter. Mais sérieusement, j'ai tellement de livres chez nous, il y en a au moins la moitié là-dessus que je n'ai pas encore lu. Mm-hmm. J'aime juste acheter l'objet, puis une fois de temps en temps, je fais « Ah, là, c'est le temps, je vais le pogner, je vais le lire. » Mais j'en ai plein. Les livres d'histoire que j'ai achetés, je les ai tous lus. Mais des romans, j'en ai plein que je n'ai pas lus encore.
Est-ce que vous vous êtes mis aux tablettes électroniques ou vous êtes toujours papier?
Je suis un peu arriéré là-dessus. je suis encore au papier. Ouais. Quand il n'y aura plus de papier, là, je vais switcher. Non, mais j'aime l'objet aussi, c'est ça l'affaire. Puis je ne peux pas tellement maganer une tablette électronique aussi. Ça coûte cher.
Les 10 livres que vous avez choisis, là, qui sont au cœur de notre conversation, étaient tous écrits par des auteurs francophones. Est-ce que c'est représentatif de vos habitudes de lecture ou c'est dû au hasard?
Je pense que c'est un hasard, en fait. Oui, je pense que c'est un hasard. Ça a donné de même. C'est peut-être mes racines qui parlent plus fort que moi, mais non, je pense que c'est ça. Mais là, je commence... J'en ai quelques-uns aussi, c'est des auteurs anglais, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des auteurs francophones ou français.
Lisez-vous en traduction ou dans la langue originale, évidemment, quand c'est une langue que vous maîtrisez?
Les deux. Ouais. L'anglais, je ne suis pas encore très fort. Je suis des cours d'anglais présentement. Fait que là, j'ai commencé à lire des livres en anglais aussi. Je saigne du nez pas mal.
Surtout c'est des livres de guerre.
Oui, je ne vais pas chercher des sujets faciles non plus, mais bon, j'apprends comme ça. J'ai mon dictionnaire des synonymes anglais à côté, puis je suis obligé d'arrêter souvent.
Donc, on vous avait demandé 10 livres, puis on a reçu une liste de 10 livres. C'est très rare, d'habitude tout le monde triche. Ça a été difficile de choisir ces 10-là plutôt que d'autres?
Oui et non, mais en fait, souvent, j'ai regardé des livres, je me suis dit, ça intéresse juste moi, ça, je ne vais pas parler de ça. J'ai plein de livres, je suis sorti, je fais, ah oui, hein, non, c'est bien trop nerd. Je ne l'ai pas pris. Il y a plein de livres que j'ai censurés. Je me suis dit, c'est trop épais, le monde ne triperont pas là-dessus. C'est quand même quelque chose de littéraire ici, là. Je ne vais pas arriver avec un livre sur les avions, tu sais. Mais j'aime ça, des livres sur les avions. Fait que je vais pas, tu sais, j'en ai vraiment le sort. Toute la mécanique des avions. J'en ai plein, mais je ne vais pas arriver avec ça. C'est trop nerd. J'ai laissé faire.
Bon. Alors, c'est
les correct 10, quand même, j'ai laissé faire.
Tout à fait. Bon. Parce que moi aussi, en mécanique d'avion, je n'aurais pas suivi longtemps.
Mais des belles images.
Ouais. Alors, le premier que vous avez vraiment choisi, c'est une pièce de théâtre, Marius, de Marcel Pagnol.
Ouais.
Vous avez... Bon, c'est une pièce qui a été jouée pour la première fois en 1929. Et ce qui est intéressant, on va en traiter... un derrière l'autre, Pagnol et Michel Tremblay. Et ça a été vraiment un cliché de la critique au Québec de rapprocher Tremblay de Pagnol. Et c'est un cliché qui est très fondé parce que, dans le fond, les deux ont utilisé une langue très locale pour atteindre à l'universel. Peut-être que nous, on ne réalise pas ça, mais pour un Parisien de 1929, ce qu'il se disait au bar de la Marine... C'était aussi exotique que quelqu'un d'Outremont qui entendait Michel Tremblay lorsque c'est paru pour la première fois. Et donc, il y a cette parenté-là entre les deux auteurs. Puis l'autre parenté, je pense qu'il vous a aussi beaucoup accroché, c'est le fait que ce dont on se souvient de Pagnol, c'est beaucoup les passages comiques. La partie de cartes, Copacabana, puis... le verre, le fameux mélange où il y a quatre tiers, puis bon, tout le monde se souvient de ça. Mais quand on est replacé devant l'œuvre, c'est vraiment tragique. C'est des tragédies, la trilogie Marius, etc. Et chez Tremblay, il y a ça aussi. Je ne veux pas vendre tous vos punchs, mais quand on voit les belles-sœurs, au début, c'est très comique. On rit hein, la première fois et c'est une vraie tragédie. Donc, ça vous a intéressé, ce mélange de comique et de tragique?
Oui, bien, ça a toujours été les deux ingrédients avec lesquels j'ai travaillé, qui m'ont habité. C'est toujours un côté... j'ai un côté mini-wheat, là, comme on dit. J'ai un côté bien sucré, j'ai un côté qui est bien sec. Pagnol est comme ça, beaucoup. Si on prend juste la femme du boulanger... Tu sais, la prémisse de départ, la femme du boulanger s'en va, une très belle femme, elle quitte, puis il décide d'arrêter de faire du pain. Paralyse le village complètement. Ça devient très drôle, mais c'est pas drôle pour lui. Lui, il est suicidaire, il est enfermé dans sa boulangerie, tout ça. Puis à la fin, il y a une des plus belles scènes que j'ai vues au cinéma de ma vie, c'est quand elle revient finalement à la maison, mais il aime sa femme. Il l'engueule pas, il donne une soupe, elle mange. Mais quand le chat revient, ça fait 3 jours qu'il est parti, le chat. Non, la chatte revient. Il donne de la merde à la chatte. Mais c'est à elle qu'il parle. Mais à travers la chatte, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues. Il l'engueule, puis il dit, t'as abandonné Pompon, l'autre chat, pendant 3 jours, qui se faisait du mauvais sang, tatata, mais il parle de lui. Ça, c'est la force de Pagnol. Ça, moi, ça vient me toucher. Puis dans Marius, Fanny et César, c'est ça. C'est vraiment un drame immense d'un amour qui se rate constamment, puis qui finit, bon, ça finit bien quand même, mais qui se rate, puis c'est dur ce qui se passe, puis c'est des gens qui sont tous pleins de bonnes intentions, souvent dans Pagnol. Et c'est sûr, ce qui m'a charmé, moi, avant même de lire le livre, j'avais vu Marius à Radio-Canada le soir à minuit. J'écoutais ça, j'étais assez freak, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais tous les films italiens poches là, qui passaient à minuit. Je me tapais tout ce qui passait là. Les films suédois, là, genre, où il y avait un mot à demi-heure, là. Puis ça se regardait longtemps, puis ils vantaient, puis je regardais vraiment tout ça, je m'imprégnais de ça. Puis quand je suis tombé là-dessus, il est où, mon petit Pagnol? Il n'est pas trop magané, lui. Même en le lisant, t'entends la musique du midi. Puis je pense que les gens, on fait le parallèle avec Tremblay, c'est une musique, Tremblay aussi. Le langage québécois, c'est une musique. Ceux qui dénigrent, tu sais, il y a quelques personnes en France, et même ici, qui dénigrent le langage québécois, on peut dénigrer les fautes de français. Tu sais, les sontais, puis j'arrête, puis tout ça, ça n'a pas sa place. Tu ne peux pas dénigrer l'accent québécois. C'est un accent vivant, c'est notre langue, c'est nos racines, c'est ancré très, très loin en nous. Puis les gens qui viennent du sud de la France aussi. Fait qu'il y a une beauté là-dedans. Moi, ça me touche. Comme je vous disais, j'ai des amis qui viennent de la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui peut imiter l'accent de la Côte d'Ivoire à part un Ivoirien. Ils parlent français. Pas un Parisien qui peut dire « parle pas français ». Il parle français autant que toi, le comique. Mais il y a un autre accent. Ça, c'est beau. Mais dans Pagnol, on le reconnaît beaucoup.
Oui. Et bien sûr, dans Tremblay, c'est clair. Quand j'avais rencontré Claude Corbeau, il avait choisi, comme vous, Les Belles-Sœurs. Mais avec lui, bien sûr, on avait pu parler du choc que ça avait créé lorsque ça a été joué pour la première fois au Rideau Vert. Mais vous aviez 5 ans. Fait que ça n'a pas dû vous faire mal beaucoup.
Non, ce n'est pas tellement.
La discussion sur la langue de Tremblay. Mais vous, qu'est-ce qui vous a attiré là, dans la cuisine de Germaine Lauzon? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette pièce-là plutôt qu'une autre?
Là, je viens de me rappeler pourquoi je l'avais lue. Je pense qu'à l'école, on nous demandait de choisir quelques bouquins. Puis j'avais pris un Tremblay parce que, bon, j'entendais parler de Tremblay depuis des années. Souvent, on parlait de Tremblay de façon péjorative aussi. Hein. C'était mal engueulé, que c'était vulgaire et tout ça. Puis moi, je l'ai... Donc, ça m'attirait. je vais aller voir, quand même. Et j'ai été surpris par la puissance du drame de cette pièce-là. Comme on dit, ça commence très drôle au début. C'est très, très drôle. C'est bon enfant, c'est joyeux, toute la gang de femmes ensemble. Tout ça. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que cette gang-là est larvée par des conflits qui sont quand même très, très durs et très méchants. C'est une gang qui est très... qui exclut beaucoup. Tu sais, ils sont très durs avec... je me souviens plus du nom du personnage qui revient. Là, celle qui a une vie un peu...
pas Carmen, non?
Carmen, c'est ça. Puis à la fin, tu sais, quand t'es voué en train de piquer les timbres, tu sais, c'est pathétique. Mais j'aime ça, le pathétique. J'adore ça. C'est ça, c'est la force de trembler. C'est excessivement pathétique. Et là, je viens de faire un pop dans mon micro de... Ça va pour vous autres? C'est beau? Ça n'a pas fait mal? Excusez. Ah,
ça va. Vous avez choisi dans vos 10 livres 3 pièces de théâtre. Et Marc Labrèche aussi avait fait ça. Pourtant, vous avez été, comme on l'a dit, vous avez une carrière remarquable à la LNI. Beaucoup de cinéma, de télé, on n'en parle pas, mais très peu au théâtre, 2 pièces.
Ouais.
Une qui s'appelait « Du rocher de milliardaire » de Robert Gravel en 2001 et une autre qui s'appelait « Propagande » de Stéphane Roy en 2000. Par manque de temps ou manque d'intérêt pour le théâtre?
Manque de temps, surtout. À cette époque-là, en fait, faut comprendre que je porte 2 chapeaux tout le temps. J'écris et je joue. Donc, mettons, un acteur normal va se reposer ou va apprendre ses textes une certaine journée. Moi, la journée qui me reste de lousse, je vais continuer à écrire ce que je suis en train de faire. Puis en 2001, dans ces périodes-là où on m'offrait quand même pas mal de pièces de théâtre, j'écrivais Galaxy, dans une galaxie près de chez vous, et j'avais déjà amorcé dans ma tête minuit et soir. Donc, au niveau de l'écriture, j'étais plein, donc je ne pouvais pas prendre en plus une pièce de théâtre, c'est très long de travailler une pièce de théâtre. C'est un mois ou deux intensifs. Après ça, tu joues quasiment tous les soirs. Je pouvais pas. J'ai refusé beaucoup de pièces à cause de ça. Mais je me dis que ça va être une autre étape. À un moment donné, j'irai plus de ce côté-là. Puis c'est un métier qu'il faut que j'apprenne parce que je ne le maîtrise pas parfaitement. J'ai fait juste deux pièces et c'est vraiment un métier, le théâtre.
Mais le fait d'avoir fait la LNI, qui est en direct aussi, c'est pas du tout la même discipline.
Pas du tout. Pas du tout, parce que la LNI, c'est de l'écriture spontanée. T'as pas de texte. Ce qui m'a d'ailleurs permis de devenir, je pense, un pas pire auteur, c'est la LNI. Mais au théâtre, c'est pas pareil. Il y a une mise en scène qui est travaillée sur un long terme, et tu as énormément de textes à retenir dans les intentions que tu as travaillées. Donc, il faut que tu sois à tête, puis tu peux pas improviser comme tu veux sur une pièce de théâtre, là, parce que tes autres sont là avec le texte, puis si tu sautes trois, quatre paragraphes, tu vas avoir des yeux c'est de même ça. Devant toi, puis là, ça va...
Bien, contrairement à la télévision, il n'y a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas recommencer.
Tu n'as pas le droit à l'erreur, mais à TV, de moins en moins.
Ah oui? Au cinéma, on va dire.
avec les journées qu'on a, les coupures qu'il y a, on va dire de moins en moins. Mais c'est vrai qu'au théâtre, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Et ça, c'est un stress. Je l'ai vécu deux fois. C'est le stress le plus élevé que j'ai connu. Beaucoup plus élevé que les gros matchs. J'ai fait des matchs très, très intenses, des matchs très stressants avec la LNI en Coupe du monde en Europe, en Belgique, en 90, où il y avait 5000 personnes. On était en finale. J'étais le plus jeune joueur de la Coupe du monde. J'avais 22 ans, tu sais, je pense. Je suis en train de me vomir les tripes, tu sais. Mais ça, c'était moins pire que quand j'ai fait du théâtre. Fait du théâtre, là, je capotais. J'en ai arraché à peu près deux semaines avant que ça commence. Puis j'étais encore nerveux quand ça a fini.
Alors, votre prochain livre, c'est peut-être une prochaine montagne à franchir, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand.
Oui. Ça a été une belle découverte, Cyrano de Bergerac. Ça, c'est bien avant que Depardieu s'exprime dans ce film-là où il est devenu... Moi, je pense...
Ça a été fait huit fois en film, hein? Il y a eu huit films.
Mais quand Depardieu l'a fait, ça a atteint un sommet... Moi, j'avais lu cette pièce-là, je me souviens plus trop quand, et j'ai trouvé que c'était... c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Tu sais, cet homme-là qui se trouve laid, qui est laid aussi, on s'entend? Non, mais c'est pas génial. Amoureux de cette fille-là, puis bon, il est comme sur le point d'y dire, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle est amoureuse d'un bel âtre, un peu insignifiant. Puis qu'elle lui demande de le protéger au combat. Et il le fait par amour pour elle. Il prête ses mots à l'autre pour pouvoir la. Quelque part, lui déclarer son amour. Mais c'est lui qui lui déclare son amour à travers un autre personnage. Mais jamais il va lui dire. Il lui dit jamais, jamais, jamais qu'il l'aime, à part à la fin. Vendu le punch. Mais c'est. C'est admirable. C'est vraiment... Moi, j'ai été touché tout le long du film. C'est drôle aussi, en même temps. Puis à la fin, quand Cyrano s'en va, ce personnage-là auquel tu t'identifies beaucoup, quand Cyrano meurt, à chaque fois, je braille comme un veau. Ça braille un veau. Puis je trouve ça touchant. C'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues. Ouais.
C'est l'abnégation
C'est l'abnégation totale. Ouais.
Totale. C'est...
Aujourd'hui, on appellerait ça de la dépendance affective.
Peut-être. Mais une des très grandes histoires comme ça d'abnégation, qui est un genre de modèle, c'est Casablanca.
Exactement. C'est dans la même lignée.
Ouais. Absolument. Et ça a modelé les hommes d'une certaine génération. Pas la vôtre, mais la
mienne. Mais c'est beau. On aime ça extrême, des histoires d'amour. Tu sais. Même souvent, on se met dans le trouble nous-mêmes parce que ça ne rock pas assez. On va aller... Là où ça va être le plus compliqué.
Bien, justement, Guillaume Vigneault, Carnet de naufrage, un autre barman, minuit le soir peut-être, un peu peut-être. D'influence, mais là aussi, c'est la peine d'amour, mais d'un homme.
Oui. Ben, en fait, c'est ça aussi, Cyrano. Dans le fond, peut-être que je m'identifie plus à ça. Quand j'ai lu ce livre-là, je ne me souviens plus c'était en quelle année, j'étais en pleine période de minuit le soir. Je l'écrivais beaucoup.
C'est en 2002, en tout cas.
C'est ça. J'étais en plein dedans. J'en avais eu une pas pire dans la vie, une bonne volée, là, comme on dit. Puis j'étais là-dedans. J'écrivais vraiment avec Pierre-Yves Bernard, on écrivait là-dessus sur comment un homme peut vivre des problèmes, tu sais, parce que les hommes ont des peines d'amour aussi puissantes que les femmes, mais c'est juste pas pareil, fait qu'on a de l'air de s'en sacrer. Mais ce qui est faux, les gars, aller chercher en dessous du tapis, on est là, on est caché. Les gars vont se cacher, ça sera pas, on n'ira pas souvent décanter ça devant une tasse de café ou une bière, on va se cacher, on va faire semblant que ça n'existe pas. Fait que ce que j'aime dans ce livre-là, justement, c'est de voir comment ce gars-là plonge dans sa peine d'amour, puis il s'effondre, il se noie littéralement, mais il finit par remonter, mais ça me parlait beaucoup à moi à cette époque-là. Puis c'est probablement que ça a transpiré aussi dans l'écriture de Minuit Soir, où, mettons, mon personnage, il m'arrachait un peu. Lui. C'était comme... ça a de la peine, des messieurs. Des fois. Non, mais c'est vrai. On a quand il y a une séparation, une vraie, tu as aimé quelqu'un, les gars ont autant de peine que les filles, mais c'est pas vécu de la même façon. Puis je trouve que Vigneault décrit bien ça.
Puis ce qui me fait penser aussi... pas faire de la psychologie non, mais ce qui vous touche aussi, sans doute, c'est que le sport est très présent. Il s'investit dans le sport beaucoup. Et donc, tentative de psychologie.
Non, je suis sûr qu'on va rattraper ça plus loin.
OK, oui.
Retenez ça.
Chronique, oui.
Le sport, on va pogner ça tantôt.
Ça se peut. Chronique de la Lune noire, ça, c'est donc une série d'albums.
Oui.
Une quinzaine, très inspirée par le monde des jeux de rôle. Le concepteur de cette série-là a même travaillé aux États-Unis à faire des livres sur les règlements de Dungeons & Dragons. Donc, ça vous a plu, cette série-là?
Ça m'a plu d'un. Les dessins sont vraiment magnifiques. C'est vraiment ces gens-là qui dessinent, c'est vraiment des peintres. C'est vraiment, ils peuvent te dépeindre. Merci. Oh boy.
C'est bon.
Je pensais que j'étais à Radio-Énergie. j'ai failli faire une gaffe de français là. Non? Mais.
Ils peuvent dépeindre.
J'ai pas le droit de dire ça à TV. Hein? Mais. Oui, c'est ça. Une situation en deux dessins, en deux plages. C'est vraiment. C'est une bande dessinée qui est basée dans un monde imaginaire, une espèce de Moyen-Âge qui n'existe pas, avec des mages, des sorciers, des dragons, des chevaliers. Mais c'est pas enfantin du tout. C'est extrêmement hard. C'est violent. C'est très drôle aussi. C'est d'un cynisme renversant. Et c'est hyper sexué. Pas porn, mais sexué. Genre, quand il se passe de quoi, il se passe de quoi. Et le gars qui dessine aime les femmes, parce qu'il dessine bien en maudit. Je te jure qu'il connaît ça. Ouais.
Et c'est une saga là, qui se déroule pendant 15 volumes ou c'est 15 histoires différentes?
C'est 15 volumes. Comme je disais tantôt un petit peu, je pense qu'il en a fait 4-5 de trop. C'est une série qui s'est mise à pogner beaucoup, beaucoup à travers le monde. Alors, ils ont étiré la sauce. Ils auraient dû arrêter à 10. Il y a eu 2-3 fins naturelles où ils auraient pu arrêter, mais c'était tellement payant. Et plus ça allait, à chaque fois que je recevais un nouvel album, l'année d'après, il était 5 piastres plus cher quasiment.
Ah, ouais.
C'était un peu poche là-dessus. Les éditeurs ont été un petit peu gourmands. Mais les 5 derniers albums sont ordinaires. Puis ça finit, tu dis... Ah, c'est ça la fin? Mais vous l'aviez déjà 3 fois la fin avant ça. Mais sinon, c'est jusqu'au 10e album, c'est vraiment une série magnifique.
Le dernier, c'est l'an passé, 2011, dernier. Mais là, c'est sûr que c'est...
Mais là, ils ont sorti, et là, j'ai pas le mot, vous allez me le trouver, quelqu'un va le trouver dans ça, des albums sur chacun des personnages.
Un fanbook, des caméos.
Non, il y a un mot pour ça. On n'est pas loin. L'origine du personnage jusqu'à l'entrée dans la
série.
La biographie.
Non. Cherchez. Okay. On va ramener ça avec sport, parce avec le sport tantôt. On va l'avoir.
Parce qu'on a juste une heure, hein?
C'est ça. On va le trouver.
OK. Mais l'affaire des jeux de rôle, dans le fond, ça inspire les personnages, mais c'est pas des jeux de rôle. Je veux dire,
absolument
c'est pas des jeux. Là.
Non, c'est vraiment dramatique. C'est très bien écrit. C'est vraiment une histoire que tu suis. Bon, qui est assez fucké, là. C'est entre les forces du mal, les forces spatiales, les mages. Faut être en forme, là. Mais non, c'est... Non, c'est... Oh, tu l'as encore. Excusez. Ça va. Trop d'air là-dedans.
Saviez-vous qu'il y a un jeu vidéo, Chronique de la Lune Noire, qui est paru en 99? Vous n'avez jamais joué?
Non, je ne trippe pas ces jeux vidéo.
Non?
Je ne suis pas bon.
Bien.
Je prendrais un mois à prendre. Non, j'ai d'autres choses à faire.
Ben, en parlant des choses dans lesquelles vous êtes bon, une enfance bleu, blanc, rouge, que vous avez même apporté, voilà. Et le hockey.
Non, mais c'est là. On l'a eu.
Alors, Marc Robitaille, qui a dans le fond, c'est un collectif, c'est 20 auteurs, je pense que vous l'avez d'ailleurs.
Je ne l'ai pas.
Puis je pense qu'il était, enfin,
j'aime
voilà.
J'aime bien montrer les livres.
Alors, une enfance bleu, blanc, rouge,
oui.
C'est pas vraiment une histoire traditionnelle du Canadien. C'est 20 personnes qui ont chacun leur point de vue d'enfant.
Ouais.
Sur le hockey.
Ils racontent en fait des anecdotes de leur jeunesse quand ils ont découvert le hockey ou quand ils écoutaient le hockey ou quand ils jouaient au hockey. En fait, le hockey, c'est, n'en déplaise à certaines personnes qui détestent ça, c'est quand même quelque chose qui est ancré très profondément dans nos racines au Québec puis au Canada, comme le foot dans certains pays, tout ça. Nous, on est un pays de glace, de froid et tout ça. Fait que veux pas, tu joues dehors l'hiver, tu fais quoi? Donne-nous un bâton, puis une poque, puis on est parti, tu sais. Ça a été fait. C'est beaucoup des anecdotes qui datent, mettons, de 1965 à 75 à peu près. Moi, c'est les années où j'ai découvert le Canadien. Donc, je lis ça, puis je me retrouve quand je vois dehors la morvonnée, quand tu fais super fret. Tu joues dans la rue, puis tu es obligé de tasser les filets parce que les autos passent de temps en temps. À se faire courir après parce qu'on vient de péter une vitre avec la rondelle ou quelque chose de même. Ou juste de regarder le match de hockey le samedi soir avec mon père dans le salon. Mais tout ça, c'est raconté là-dedans par des gens qui l'ont vécu. Fait que ça vient de chercher beaucoup. Ça se dévore là, hyper facilement.
C'est beaucoup, c'est ça. Ça ne parle pas beaucoup du sport lui-même.
Un peu. C'est pas une analyse sportive. C'est en fait, c'est un rapport émotif avec le sport, avec le jeu de hockey. Ça parle même de jeux de hockey, en fait, aussi.
Ah oui.
Parce que moi, j'en ai eu quand j'étais jeune. Puis il y en a un qui parle de ça, comment il y avait. Que son frère, il avait volé son goaler. Là,
vous avez la réputation de jouer beaucoup vous-même.
Oui.
Vous avez une tradition, c'est de jouer le 31 décembre.
Oui.
J'imagine avant le bye-bye, puis la partie se termine, puis vous allez.
Le bye-bye, on le tape.
Ah!
Oui, puis. Non, c'est ça, on fait un gros souper, puis après ça, à 11 h, on sort dehors. Puis la patinoire, on l'a placée. Il y a des spots, on peut jouer le soir. Hein. Il y a du champagne sur la table dehors. Puis là, on boit du champagne jusqu'à. On joue un peu. À minuit, on arrête, on boit du champagne. Puis après ça, on joue jusqu'à 2-3 heures du matin.
Ouais. Mais cette année, ça n'a pas donné.
Cette année, c'est. Depuis 2 ans, on a de la difficulté à cause de la température. Alors, n'en déplaise au lobbyiste de M. Harper, il y a un réchauffement évident. C'est vrai.
C'est pas l'effet du champagne, ça.
Non, c'est vraiment les glaces des lacs. Ça gèle beaucoup plus tard maintenant. Ouais. Fait qu'on ne prend pas de risque. Non, il ne va pas.
Tintin. Coke en stock. Et vous allez avoir le temps de le trouver. Donc, il y a 24 albums de Tintin, si on inclut le dernier, le posthume. Celui-là, c'est le 19e. Donc, c'est une œuvre achevée. Et pour la première fois, en tout cas, il me semble, Hergé se met à être très, très autoréférentiel. Il ramène une galerie de personnages, Tintin, Milou, ça va de soi, le Capitaine Haddock, Tournesol, Nestor, ceux-là, on est habitué de les voir. Mais là, il ramène, comme diraient les Français, un best-of, le Général Alcazar, l'Émir, le fils Abdallah, le Docteur Muller, Allen, le second du Capitaine, qu'on a vu dans le film de Spielberg récemment, Séraphin Lampion, l'homme aux blagues, la Castafiore, Rastapopoulos, Di Figuera et Dawson du Lotus Bleu. Donc, c'est vraiment pour la première fois, et il va faire ça beaucoup. À la fin,
dans
il va
les
beaucoup s'auto-citer, normal quand on a une œuvre aussi considérable. Mais vous, il sort en 58. Vous, pourquoi Coke en stock? Pourquoi celui-là plutôt que les 23 autres?
Bien, Coke en stock, c'est un original. Il est-tu magané? Celui-là, je l'ai acheté usagé en plus à l'époque. Donc, c'est un add-on. J'avais raconté l'histoire, comme je l'ai dit, j'ai raconté l'histoire à une soirée sur la fondation des Desfortins. J'étais pas un adolescent très joyeux, moi, à l'époque. Puis je me souviens que j'ai eu une pause bien tough, où, comme plusieurs ados, j'ai pensé au suicide à un moment donné. Puis à un moment donné, je suis arrivé très près d'y arriver. Et cette journée-là, où j'ai décidé de revirer de bord, de ne pas passer à l'acte, je suis parti du pont Jean-Cartier, j'ai marché presque partout à travers la ville, et je me suis retrouvé sur la rue Mont-Royal, et il y avait des magasins comme l'Échange et tout ça, qui avaient des... Je suis rentré là-dedans, et j'ai commencé à bouquiner et tout ça. Puis il y a eu dans ma tête un déclic, parce que quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je me blessais, je me rentrais un clou dans le pied, je me brûlais ou je tombais en bas du deuxième ou des niaiseries de main. J'étais un petit gars, on y allait au toast, nous autres. Puis ma mère m'a amené à la clinique ou à l'hôpital ou whatever, tu sais, faire réparer. Donc, je souffrais beaucoup. Ma mère finissait toujours, quand on sortait de là, en plâtre ou avec 25 points de suture, à m'acheter un Tintin. Tout le temps. Fait que j'ai la collection. J'en ai vraiment pas mal. Et cette journée-là, ça m'avait rappelé ça. Puis je me souviens, je me promenais, puis je me suis dit, coke en stock, je ne l'avais pas. Je me suis acheté un Tintin. Je me suis réparé tout seul cette journée-là. Fait que je suis parti, puis là, parce que j'étais jeune, là. Il coûtait 1,95. Fait que c'est à peu près ce que j'avais dans les poches. Fait que j'ai acheté ça. Fait qu'il est bien particulier, ce livre-là. Puis je me souviens de l'avoir lu, je l'ai dévoré, puis c'est un des bons. C'est vraiment un des très bons. C'est ça mon histoire avec Tintin, avec Coke en stock, en fait. Mais j'ai beaucoup aimé la série des Tintins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'un, il y a énormément de référents historiques. Dans Tintin, il parcourt une très, très grande période. C'est quelqu'un qui était très ferré en histoire. Quelqu'un de son époque aussi, avec les côtés arriérés de son époque, mais c'est quelqu'un de bien important dans ma vie, Hergé.
Et ça, c'est la preuve que c'est la version originale, c'est qu'il y a eu une reprise de Coke en stock, un peu plus politiquement correct. Là-dedans, je pense que c'est des militaires britanniques.
Qui occupent le Moyen-Orient,
oui. C'est ça. Et quand ça a été refait, là, c'est plus neutre. On voit moins qui fait ça. Avez-vous lu Coloc en stock, le Tintin en joie?
Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu encore. Ouais. C'est pareil, comme vous dites, ça n'a pas plu à tout le monde.
Ça a fait un petit scandale et ça nous amène tout naturellement, ce Tintin en joie, à parler de notre ami Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui a écrit « Les rois maudits » et dont il faut se rappeler que lorsqu'il était secrétaire perpétuel, il a eu des mots pas très tendres pour les Québécois, et surtout pour les Québécoises. Il leur a reproché de trop féminiser la langue. Et pour lui, l'affront suprême, c'était de dire « Madame la ministre » plutôt que de dire « Madame le ministre ». Il y avait eu un échange assez doux amer avec Louise Beaudoin, peut-être que vous vous souvenez de ça. Elle l'avait accusé, il n'y a pas que le dos de la cuillère, de conservatisme linguistique. Donc, il s'était parlé. Et malgré tout, les Québécois, ils sont gentils parce qu'ils ont pardonné. En 1999, au Salon du livre de Montréal, on a fait un concours. Les gens devaient voter pour le roman du siècle, pas de l'année, le roman du siècle. Et c'est Les Rois maudits, la saga des Rois maudits, qui a remporté la palme. Donc, roman du siècle. Avec un gros S, parce que c'est en 7 tombes. Alors, pourquoi ils sont maudits?
Bien, il y en a sûrement qui l'ont lu, mais les rois de France, ont été maudits parce qu'ils ont décidé, à un moment donné, de liquider l'ordre des Templiers, qui était un ordre assez puissant au Moyen Âge, qui avait participé à presque toutes les croisades. C'était des gens qui étaient très influents, très, très riches. Alors, ils leur ont trouvé toutes sortes de défauts pour pouvoir les liquider parce qu'ils en voulaient à leur... Ils voulaient supprimer leur pouvoir, mais surtout qu'ils voulaient s'emparer de leur richesse, parce qu'ils avaient énormément de possessions et de richesses. Alors, ils les ont démonisés, tout ça, puis ils ont fini par les passer au bûcher presque tous, dont les chefs sur l'île Saint-Louis à Paris, qui ont brûlé sur le bûcher, et le chef des Templiers aurait, au moment où les flammes commençaient à lui lécher les pieds, aurait hurlé au roi de France, « Vous allez être maudits sur 4 générations. » Plus que ça, même, « Vous allez être maudits jusqu'à... » jusqu'à la fin de votre lignée. Et ça commence là. Et tout le long des sept tombes, tu vois vraiment que les rois qui se suivent ne vivent pas vieux et ont des morts assez abominables. C'est vraiment... Mais c'est admirablement bien écrit. Il a beau détester les Québécois et les Québécoises, il faut lui donner ça. Il est vraiment magnifique. Ce gars-là sait écrire, c'est vraiment... Moi, j'ai été... Ça, c'est le genre de livre que je disais qu'il ne fallait pas que je lise le soir parce que je me couchais beau. Je commençais à dire, on va faire un petit 20 pages. Là, tu te réveilles le lendemain, tu as bavé dedans. T'en as lu 125, tu sais. Mais tu as dormi 3 heures. Fait que c'est vraiment... c'est vraiment de la belle littérature.
Et ça dure 13 générations, en fait, 13 rois. Et puis, vous m'avez même dit qu'il avait fallu que vous achetiez un livre de chevet pour vous aider à les retracer, les généalogies des rois.
Oui. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, puis j'aime ça savoir où ça se passe et quand et avec qui. Donc, à vos souhaits. Et je m'étais fait un petit cahier. Excusez, je suis fatigué. J'ai trop lu hier soir. Un petit cahier, donc je notais les noms, les périodes et tout ça. Et j'avais acheté aussi un livre sur tous les rois de France. Donc, je me promenais, quand il y en nommait un, j'allais me promener, je regardais toute la lignée des rois de France. Et j'avais à côté un atlas historique de l'époque, parce que la France n'était pas divisée, l'Europe non plus de la même façon. C'était des duchés, des principautés, tout ça. C'était compliqué. L'Aquitaine. C'est où l'Aquitaine? On va voir. Bon, c'est en haut, là. Tu sais, les papes étaient situés à Avignon, ils n'étaient pas à Rome. Donc, tout ça, je regardais ça comme ça, puis là, je lisais mon livre, puis je me promenais.
Je ne vais pas lire au lit, là. Parce que...
Ah, mais mon lit est grand.
D'ailleurs, vous étiez tout seul dans le lit.
Non, okay. Je tassais tout le monde.
OK. Ça, c'est un roman historique. On s'entend qu'il y a autant roman que historique dans l'expression. Mais très jeune... Vous avez été vous êtes devenu un passionné d'histoire.
Oui. La plupart des livres, je dirais que 60 % des livres que j'ai lus dans ma vie ont rapport ou ce sont des livres d'histoire. Quand j'étais jeune, il y avait une série qui traînait chez nous qui était, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, je ne sais pas quelque part aussi.
Histoire universelle.
Histoire universelle, vieux livre. Ça, voilà. Pas long, je m'approche. Je vais vous donner. C'est tout vieux, là. Ça a été fait en 63, fait que ça traînait chez nous, j'ai commencé à regarder ça, puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un peu un nerd. J'ai vraiment traversé ça, tu sais, à peu près 12 tomes, là, puis je regardais, puis bon, j'ai commencé à lire ça. Ça m'intéressait beaucoup. Puis aussi, l'été, j'allais en vacances au Nouveau-Brunswick, dans le village de ma mère. Ma mère est acadienne, puis son frère, Évariste, a débarqué en Normandie. Le 6 juin 1944, donc il me racontait beaucoup ses péripéties là-bas, si on peut appeler ça des péripéties. Donc ça m'intéressait beaucoup, c'était de vive voix, c'était vraiment, il me transmettait ça. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé à ce qu'il avait vécu lui pendant la Seconde Guerre mondiale, autant le côté excitant de la chose que le côté abominable des choses, parce que lui, il l'avait vraiment vécu sur le terrain. Fait que je pense que c'est de là que... mon ancrage dans l'histoire a commencé.
Et ce qui vous intéressait dans ces récits, puis dans la Deuxième Guerre, je pense que c'est vraiment la Deuxième Guerre qui est votre...
Ça, c'est à cause de mon oncle.
Qu'est-ce qui vous intéresse? La stratégie, plutôt la réelle politique, qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans? Les réactions des gens, c'est quoi?
C'est un peu tout, en fait. Quand tu es jeune, ce qui te fascine le plus, c'est le côté soldat, stratégie, bon, le matériel et tout ça. Après ça, c'est le côté humain qui m'intéressait. Autant le sort des civils. C'est une des premières guerres, la première et la deuxième, où on s'en est pris systématiquement aux civils. Avant, souvent, les bagarres, il y a eu des exactions à travers les siècles sur les civils, mais en général, les armées allaient se pogner sur des terrains puis se tapochaient là. Et après ça, ça s'arrêtait pour la plupart du temps. Mais là, on s'est mis systématiquement à martyriser les civils, à bombarder des cibles civiles. Les Allemands ont commencé à raser Londres, à taper. Il s'est exercé en Espagne pendant la guerre d'Espagne, à Guernica d'ailleurs, qui a donné le fameux tableau. Donc, c'est une guerre où on s'est dit, la guerre totale. C'est là que le mot guerre totale s'est mis à exister. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, on est dans ce monde-là. Ça a façonné le monde d'aujourd'hui. le monde dans lequel on vit, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui l'a amené. Et on avait affaire à des monstres qui étaient en place, comme Hitler et tout ça, un totalitarisme qui était vraiment élevé. C'est de voir aussi comment les pays pouvaient se mobiliser. Comme les États-Unis sont devenus la puissance qu'ils sont aujourd'hui, mais là, sont en déclin, mais à cause de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale leur a coûté très cher en vie humaine, mais les a rendus hyper riches et puissants. Ça a fait émerger cette puissance-là et ça a fait émerger l'Union soviétique aussi, les deux blocs.
Sur le débarquement, pour vous, le classique, c'est Le jour le plus long,
oui. Hein,
de Cornelius Ryan, qui a c'est le film.
C'est le film
The Longest Day.
Le jour le plus long, oui. Mais encore là, c'est à cause de mon oncle. Parce que quand j'ai appris que mon oncle avait débarqué en Normandie, là, j'ai vu qu'il y avait un film là-dessus. Uh-huh. Je l'ai regardé puis je me suis dit, oh boy, c'est ça qu'il a vécu. Mais j'ai encore eu un choc beaucoup plus puissant il y a une douzaine d'années quand j'ai vu Saving Private Ryan. Parce que mon oncle a débarqué dans la première vague d'assaut. Il n'était pas dans la deuxième vague, il était dans la première, quand il y avait de la grêle de balles qui tapaient dans les portes avant qu'il ouvre la porte. À Saint-Aubin-sur-Mer, à 6h45 le matin, mon oncle a débarqué là. J'ai refait cet été. Je suis allé sur la plage. J'ai filmé à l'heure exacte, le 6 juin. J'étais dans l'eau jusqu'ici. Je me suis filmé avec ma caméra, puis j'avais des chums qui me filmaient de là. Puis je disais à ma mère, je dis, regarde bien, je vais faire la même course qu'il a faite. Puis le 6h45, je suis parti en courant. Puis j'ai couru toute la plage qu'il a faite, à peu près à quelques mètres près d'où il a débarqué. Je sais à peu près où. Et j'ai couru jusqu'à la digue. Mais moi, j'avais rien sur le dos, j'avais pas de sac, pas de casque, pas de carabine, puis il n'y a pas de clown qui me tirait dessus. Là. Et je rushais au bout. Je me suis dit, hey, ça devait être effrayant. Puis quand j'ai vu Saving Private Ryan, je regardais le film, j'ai fait, OK, mon oncle, là, je l'aime encore plus. Je l'admets. C'est pour ça aussi qu'il était. J'ai compris pourquoi il était un peu fucké. C'était un oncle un peu colérique, là. Puis là, je venais de comprendre. Là.
Puis dans le film aussi, c'est la sonorité, le son. On entend je pense qu'ils tiraient dans des ports. On entend la balle pénétrer.
Bien, ils ont eu un Oscar justement pour les effets sonores. Ouais.
Non,
c'est un peu abominable.
Et vous avez lu aussi un livre de Patrick Rambaud qui s'appelle La bataille.
On n'en sort pas. Hein? Oui, mais ça, c'est sur les sur les guerres napoléoniennes. Il y avait une émission qui jouait à Télé-Québec quand j'étais jeune qui s'appelait Jean-Roch Coignet. Bon, je sais que je suis vieux. Mais c'était sur un grenadier. Il y a un livre qui a été fait sur ses mémoires. C'est un grenadier de la garde impériale de Napoléon. Il a fait presque toutes les campagnes de Napoléon jusqu'à Waterloo, quand Napoléon a vraiment mangé sa volée. Donc, j'ai commencé à regarder ça, puis ça m'intéressait beaucoup. Puis quand ce monsieur-là a sorti... D'ailleurs, il a gagné le prix Goncourt, je pense, avec ça. La bataille, il a pris une des batailles les moins prestigieuses de Napoléon, la bataille d'Essling, où ça a vraiment mal été. Ça a duré 2 jours. C'est une bataille qui a duré 2 jours, qui a laissé 40 000 morts sur le terrain. À cette époque-là, faire 40 000 morts, il fallait le faire, là. Tu sais, à un coup du fusil, là, ouais. C'est une boucherie sans nom. La manière que c'est décrit, cette bataille-là, heure pour heure, bataillon par bataillon, tu as vraiment l'impression d'être là, et c'est rochant. C'est vraiment rochant. Tu dis, OK, jamais je serai soldat de ma vie. Tu lis ça, mais c'est tellement brillant, tellement bien écrit, tellement... Tu as vraiment l'impression d'être dans les régiments, puis de marcher au front, puis d'entendre les boulettes passer à ça de la tête. Et tu vois tout, tu n'as même pas besoin de cartes, tellement c'est bien écrit. Je ne sais pas comment ce gars-là fait pour être aussi limpide, mais il est vraiment brillant. Et il y en a fait un deuxième qui s'appelle « Il neigeait », c'est sur la retraite de Russie, comment Napoléon a brisé son armée là-bas, puis ils sont morts de froid presque la plupart. Mais je lis des choses drôles aussi, hein, des fois. Oui, tu sais, un petit Tintin, une fois de temps en temps. Ouais, non.
Et là, vous êtes lancé dans la grande aventure de la Deuxième Guerre mondiale avec Max Gallo.
Oui.
Et lui, c'est un tome par année. Le premier, c'est 1940. Et le cinquième, qui est 44-45, vient de paraître en janvier, là, le 12 janvier. Mais je sais que vous n'êtes pas rendu là. Vous êtes encore dans le premier tome.
Il finit, ça?
Fini le premier, OK. Ça finissait bien?
Un peu magané. Non, ça ne va pas bien,
pas très bien. Non. Alors, donc, c'est 1940.
Ouais.
Et ce qui vous a frappé, c'est parce que Marc Hervieux, lui, avait été fasciné par le personnage d'Hitler. Il avait lu beaucoup de choses là-dessus. Mais vous, c'est, en tout cas, dans celui-là, c'est du point de vue des Français.
Ouais.
Comment ils vivent 40. Et ça vous a beaucoup frappé.
Ça m'a beaucoup frappé parce que quand l'Allemagne a envahi la France en 1940, c'était prévisible qu'ils allaient envahir. Les Français dormaient au gaz. Les Français ne voulaient pas d'une deuxième guerre. Mais ils avaient signé un pacte avec la Pologne puis l'Angleterre, donc ils étaient pris dans un engrenage. Ils étaient en guerre contre l'Allemagne, mais pendant six mois après que la Pologne soit tombée, ils auraient pu attaquer l'Allemagne, qui était faible à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Il s'est installé une espèce de drôle de guerre où ils se sont observés pendant 5-6 mois, où les Français étaient matériellement supérieurs aux Allemands. Ils auraient pu foncer jusqu'à Berlin en deux mois. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés sur leur position. C'était des vieux généraux de la première. Personne ne voulait se battre. Le gouvernement était morpionné complètement, comme les nôtres ici présentement. Le pays était paralysé de l'intérieur. Il y avait beaucoup de montées de droite, d'extrême droite en France. Il y avait des communistes, tout ça. C'est un pays qui était trop divisé pour faire face à une machine aussi bien huilée que celle d'Hitler. C'est pour ça que ça a pris un mois. Les Allemands sont rentrés en France, puis la France est tombée en un mois seulement. Mais c'est de voir après ça le côté laid de la France. Moi, la France, je suis un amoureux de la France. J'adore la France, mais en même temps, la France a ses côtés sombres et tout ça. C'est de voir la collaboration qu'il y avait avec la Gestapo, avec le régime de Vichy et tout ça, comment on pourchassait les Juifs, comment il y avait des délations, comment on pouvait collaborer de façon un peu écœurante avec l'ennemi. Mais en même temps, des fois, je fais comme, il faut se remettre toujours dans le contexte de l'époque. C'est facile de juger 65 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Mais c'est intéressant à lire, c'est vraiment intéressant, parce que quand la guerre a fini, tous les Français étaient dans résistance. Toute la gang. Il y avait tout. La plupart n'étaient pas dans résistance, il y en avait beaucoup. Il y avait de la résistance passive, mais il y en avait beaucoup qui collaboraient. Puis il y en a, tu comprends pourquoi ils collaboraient, il y en a d'autres, tu ne comprends pas pourquoi ils collaboraient. Donc ça marque beaucoup, c'est bien intéressant là-dessus.
Et vous avez le projet de continuer, là, 41-42.
Je commence 41, mais pas tout de suite, parce que j'ai vraiment besoin de dormir.
On va terminer sur des notes un petit peu plus joyeuses. Vous êtes amateur de guides de voyage. Il me semble que vous en avez apporté un très beau.
Un superbe. Ici. Oui. Londres. Oui, non, j'aime ça, acheter ça. D'un, ça me stimule pour partir. J'aime ça les acheter, c'est mon côté bande dessinée encore, ou enfantin, j'aime ça les acheter avec des images. Moi, je veux pas, genre, on m'explique Londres. Non, montre-moi-les. Là, on t'explique, c'est vraiment brillant, on t'explique tout ce que tu peux retrouver à Londres, ce que tu veux pas retrouver à Londres, les quartiers riches, les quartiers pauvres, où tu peux aller manger. C'est vraiment excitant, moi, j'adore ça. À un moment donné, je devais aller tourner en Argentine. Jamais de ma vie, j'aurais pensé aller en Argentine. J'étais allé tourner les doigts croches là-bas. Je me suis acheté un gros livre sur l'Argentine, justement, de même, puis j'ai dévoré ça. Puis quand je suis arrivé là-bas, je savais où aller. Je me suis dit, « Hey, il paraît que le steak est bien bon là-bas. » Fait que j'amenais ma gang, puis j'ai traîné. Non, moi, j'aime ça, ça me fait voyager, même si peut-être que je n'irai jamais dans tous les endroits que j'ai lus. Comme dernièrement, je n'ai dévoré un sur l'Australie. C'est mon objectif d'aller en Australie et en Écosse.
Puis là, c'est par hasard que vous avez apporté Londres ou parce que
non,
c'est une ville à laquelle vous êtes particulièrement
attaché? Je suis allé pour la première fois à Londres au mois de mai. Première fois de ma vie, j'ai débarqué à Londres et j'ai vraiment pogné une piqûre. Les Londoniens sont magnifiques. Parce que j'ai été beaucoup à Paris. J'adore Paris. J'aime moins le Parisien. Mais je m'habitue, je suis habitué. Je les envoie chez Guillaume. Là, tu sais, je suis comme, c'est donnant-donnant maintenant. On est à la même place. Il est fin, je suis fin. Il est chiant, je suis chiant. Ouais. Mais les Londoniens sont vraiment hyper polis. Puis c'est drôle, tu débarques à Londres, il y a des taxis. Tu débarques à Paris, trouve-les. Puis si t'en trouves un, c'est si ça y tente. C'est vraiment... Non, c'est pas le même service, c'est pas le même... Mais à quelque part, c'est d'autres mœurs, c'est correct.
L'autre chose dont on va se parler pour terminer en beauté.
En beauté.
Parce que hier, nous, on sera rediffusés à l'été pendant que les gens seront les pieds dans le sable. Mais hier, c'était la Saint-Valentin. Et là, vous nous avez apporté l'amour fou.
Oui.
Qui est très beau, d'ailleurs. Qui est...
Beau, hein?
Je vous
beau,
laisse en faire les honneurs.
C'est pas fini. Attends. Ça s'ouvre.
Alors, présentez-nous un peu
oui.
votre choix.
boy. Non, en fait, c'est l'amour fou. L'amour, c'est magnifique, on s'entend. Mais c'est aussi quelque chose, c'est quelque chose qui est très grisant, qui nous remplit, qui peut, mais qui peut tuer. Qui peut faire très mal aussi, parce que c'est une émotion qui est tellement forte. Et là-dedans, c'est vraiment des histoires qui ont été répertoriées, des histoires vraies, entre des personnages célèbres, dont l'histoire vécue entre Édith Piaf et Marcel Cerdan, entre Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Colette Peignot, Georges Bataille, des Gala et Salvador Dali. Des histoires un petit peu tordues, compliquées, mais des belles histoires d'amour, mais vraiment, là, on parlait d'Edmond Rostand tantôt, puis de Cyrano. Et ça finit, ils sont allés loin, ça finit avec Marie Trintignant et Bertrand Cantat. Tout, comment... Ils s'aimaient très fort, ces deux-là, mais vraiment un peu trop. T'sais, c'est un peu... comment l'amour peut rendre fou, comment l'amour peut devenir, des fois, meurtrier. Et ces histoires-là... Mais c'est beau, là, c'est pas triste tout le temps, là. Mais c'est très, très beau et c'est très touchant. Alors, moi, à un moment donné, j'ai acheté ça, j'ai commencé à picosser dedans, mais je l'ai traversé. Et c'est vraiment très, 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 très beau. C'est aussi très saisissant.
Comment... C'est un traitement journalistique. Il raconte l'histoire?
Un peu des deux.
C'est écrit de l'intérieur? Comment
c'est
ça...
un peu de l'intérieur, mais c'est... Oui, c'est un peu journalistique, mais c'est raconté quand même avec une certaine pudeur. Parce que, bon, on parle juste, mettons, de l'affaire Trintignant puis Cantat, faut pas... ils n'ont pas traité ça de façon sensationnaliste. Au contraire, t'es avec eux dans les derniers moments aussi, puis t'as mal au ventre, tu sais. T'es pas bien, tu sais. Mais tu dis, comment deux qui s'aimaient si fort ont pu se rendre là? C'est la beauté et le côté dangereux de l'amour. Ce que j'aime beaucoup.
Claude Legault, merci beaucoup. Je sais que vous devez vous nous quitter pour retourner à votre encrier.
À 19-2.
À vos travaux d'écriture. On a bien hâte à la deuxième saison. Et encore une fois, grand merci de vous être prêté à l'exercice.
Bien, merci. Merci à vous. Merci. Merci.
Claude a accepté de répondre à quelques questions, 5-10 minutes. Les micros sont devant. Ce serait cool que vous vous identifiez, que vous vous nommiez.
Et, on va virer un petit peu, si tu gardes photo, M. Cameron.
Non, c'est fini maintenant.
Ah, OK, d'accord.
Bonjour.
Bonjour.
Mon nom est Yannick, je travaille ici, à la Bibliothèque Archives nationales, musique et films. Je voulais savoir, c'est dur parfois de faire un choix, mais s'il y a un livre qui a changé le courant de votre vie, ça serait lequel?
Ouh! Ça, c'est une question. Moi, je dirais que je retournerais à Cyrano de Bergerac. Que de l'air, ça peut avoir l'air innocent, mais il y a, pour moi, il y a tout là-dedans. Il y a tout ce qui me constitue là-dedans. Moi, j'aime les histoires d'amour compliquées. J'aime les aventures, j'aime l'histoire et j'aime l'humour. Il y a tout là-dedans, tout est là. Et c'est aussi la vie. C'est vraiment... Et j'aime le côté baroque des choses, j'aime le côté... J'aime un film ou un livre qui se présente bien dans les 10 premières pages, qui me situe où il est. Quand je jouais en impro, une de mes forces, la façon dont on m'a formé, c'est qu'on m'a dit, installe dans les premières minutes ou les premières secondes, ça dépend de la longueur de l'impro que tu as, qui es-tu, où es-tu et où tu t'en vas. Moi, si dans les 10 premières pages, on me dit ça, on me le montre de belle façon, on me décrit ce matin-là, les oiseaux chantaient, faisaient beau, je suis bien content. Tu sais, faut que je sache où je suis, me situer dans un lieu. Et je trouve que Cyrano de Bergerac est campé dans une époque que j'adore. Et c'est une histoire d'amour, comme je dis, qui est tellement forte. C'est aussi dans un contexte de guerre avec les Espagnols et tout ça. Donc, il y a tout pour moi dans ce livre-là. Okay. Ça m'a intéressé à tout. Ça m'a intéressé au cinéma, à la littérature, mm-hmm. à vraiment tout ce que je fais dans la vie jusqu'à maintenant. Cyrano.
Merci.
Puis vous m'aviez dit que vous n'avez pas de patience hein, avec les livres. Si oui. En 20 pages, ils ne vous accrochent pas au suivant.
Je floche. Oui. Non, parce que j'ai pas. Non, 20 pages, tu n'as pas réussi. Merci, bonsoir. Bonjour.
Bonjour. Moi, c'est Maïka.
Bonjour.
Je voulais savoir c'est quel genre de sujet, outre que un galaxie, que tu écrirais?
J'ai fait le milieu des bars avec une histoire, la police. Là, je me dis, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller vers la prêtrise, après ça.
Ah, ben oui.
Non, mais je niaise pas. Je niaise pas. J'ai quelque chose qui mijote dans ma tête. Ce ne sera pas des prêtres très catholiques, là.
Ah.
Mais ce ne sera pas des ce que vous pensez non plus, là. Ça va être... Ouais, le côté secret des religions, le côté mafieux des religions m'intéresse. Beaucoup.
D'accord. Merci.
Ça va? Pas d'autres questions? Ah, madame?
Oh.
Excusez.
Vous êtes où, madame? Je ne vous vois pas.
Attendez une minute. Il y avait une question en avant, puis après, on revient à vous, je vous le promets.
On revient, c'est sûr.
Pourquoi vous n'avez pas choisi de livre policier?
Non. Non. Non, c'est drôle. Non. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a jamais intéressé. Peut-être que je trouve ça trop long. Même, tu sais, on essayait de me faire lire des Agatha Christie quand j'étais jeune à l'école, puis hey, je botchais, là. Non, je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a jamais intéressé. Je sais qu'il faut que je découvre c'est qui à un moment donné, puis ça me fatigue. Je ne sais pas. C'est...
Madame derrière.
Bonjour. Ça, si je le savais.
Il y a un film, là. Vous
m'aider à...
J'aimerais bien ça. En même temps, si l'amour c'était facile, on n'aurait pas de beau roman. Il n'y aurait rien qui se passe. Les gens heureux n'ont pas dit d'histoire, c'est ça le cliché? Des histoires sans histoire. Non, il faut que ça soit compliqué, il faut que ça soit triste, il faut qu'on s'arrache les tripes. On est comme ça, on est sado-maso, hein, les humains. Un petit coup de fouette, une claque sur la gueule, puis on est parti. On aime bien ça. Ah, oui.
Est-ce que vous croyez encore qu'on peut trouver la galaxie que vous cherchez?
La planète habitable? C'est fort possible qu'on parte sur un tombe 3 pour la trouver. Oui. On travaille, on commence à penser à ça, là, de renvoyer l'équipage un peu vieillissant et moribond dans l'espace pour finir la mission. Ouais.
Merci beaucoup.
Ah, il y a une petite main là-bas.
Dernière,
là?
Oui, allez-y, parlez fort.
Vous avez joué dans un film
tiré
d'un livre de Patrick Sénégal. Est-ce que vous avez lu Patrick Sénégal?
J'en avais. Non, parce qu'il me faisait peur. Mais j'ai lu celui que je devais jouer, là, en fait. Mais non, il m'énerve un peu, il me stresse. Oui?
Une c'est Richard.
Salut, Richard, ça va bien? Ça, peut-être en show, oui, Dieu, ça va être au Grand Rire de Québec cet été. Dieu va revenir taper dans le tas.
Ouais. C'est un peu obscur, là, votre réponse, la question, c'est un inside, c'est quoi?
Dieu? Non, Dieu, c'est un personnage que je fais en humour, en fait.
Ah!
Excusez. Je prenais pour acquis que tout le monde...
Non. Désolé.
Non, c'est vrai. C'est un personnage, je me prends pour Dieu, mais je prends des pilules maintenant, c'est correct.
Alors, vraiment, une dernière, j'ai vu une main.
Oui.
Le projet de
Stendena,
est-ce que c'est un projet qui est caressé ou bien c'est vraiment ça va se faire?
Le projet de?
Est-ce que c'est un projet qui seulement qui se pense ou bien vraiment ça va se faire?
Lequel, ce Galaxy ou l'autre?
Stand-up.
Ah, le stand-up, oui, non, ça va se faire. C'est juste que présentement, je me suis rendu compte que humainement, c'est impossible de faire tout ce que je dois faire en même temps. Ça fait 2 semaines que je me cours après la queue, je ne la pogne pas. Puis là, je me dis, c'est parce que ça ne marche pas. Je suis même en train d'épurer des affaires parce que je ne peux pas tout faire en même temps. J'ai l'impression de faire mes journées et de me dire, ah, j'ai rien fait aujourd'hui ou j'ai fait tout croche. Puis là, je suis en train de tasser des affaires, faire mes affaires comme il faut. Puis quand ça va se présenter, faut être patient. Il faut que je finisse 19-2. 19-2, j'ai un mandat de terminer ça. Je vais terminer 19-2. Après ça, il va se créer un espace. Là, je vais rentrer avec le show. Parce que c'est long écrire un spectacle aussi. Fait qu'il ne faut pas l'écrire à temps perdu, ça ne donne rien. J'accumule toutes les... Il me vient des conneries et des blagues que je note sur n'importe... J'ai une pile de boîtes, de bouts de papier, de n'importe quoi que je mets dedans. Là. Des fois, je me relis, je trouve ça poche, mais des fois, je trouve ça très drôle. Fait que j'accumule, en fait, les choses.
Je te l'ai pas, on cherche les archives ici. Hein?
Oui, OK.
écoutez... Je sais qu'il y a des gens qui meurent de retourner au travail à Hydro-Québec, à l'UQAM et ici. Donc, j'ai vu une main. Si c'était une petite vite, on vous la.
Ah,
on vous la
là.
Fait.
Oui. Mais il est mort heureux. Oui, non, je sais, mais moi, je le voyais pas, continuer, puis le voir magasiner au centre de chat avec Fanny. Ça me tente. Je trouvais que ça allait enlever un lustre noir qu'il y avait sur ce personnage-là. Ce personnage-là, tout le long de la série, attire la mort sur lui. Il la trouve. Il la trouve vraiment. C'est un être qui a envie d'être heureux, mais qui a envie de mourir en même temps. Il est comme. Alors, il y a les deux. Il meurt heureux. C'est une poésie noire, c'est triste, mais c'est ça. C'est un peu. Je dirais que je me venge de Cyrano. Quand Cyrano est mort, je ne l'ai pas pris. J'étais vraiment triste, j'étais en tabarnak. Je ne l'ai pas pris. Puis il y a bien des gens qui ne l'ont pas pris quand on a tué Marc. C'est ça. Ça faisait mal. Même quand on l'écrivait, nous autres, on braillait. On se disait, oui, c'est là qu'il s'en va. Puis, on l'éteint comme ça, puis c'est tout. Mais c'est ça, moi, j'aime ça me faire enlever, à un moment donné, un personnage, ça me fait mal, mais tu dis, ah ben c'est comme ça, c'est terminé, on ferme les livres, c'est fini.
Et, merci beaucoup. Madame Godbout, ça, à peu près quand ça passe à Canal Savoir?
Au mois de mai, je pense.
En mai? Donc, vous pourrez revoir à Canal Savoir en mai.
Merci,
Madame.
Merci,
bonne fin de journée.
Merci.
Merci. Merci.